Ce que je comprends de ton texte de bienveillance, c'est la distinction que tu fais entre la scène de bienveillance, la bienveillance devenue spectacle ou image, qui est avant tout une posture morale ou narcissique, et une autre bienveillance qui ne se convoque pas, qui est un ciel politique, comme tu dis, et qui surtout n'appartient pas, qui n'est pas une propriété, mais un donné sans propriétaire. Une bienveillance vraiment bienveillante, peut-être, qui comprend précisément tous les fantômes qui habitent et peut-être arrête le sort, qui est une répétition qui hante. Toi et moi, moi et toi, est-ce que nous n'essayons pas de dessiner les conditions de cette bienveillance entre nous ?
Oui, quoi, je pense qu'en fait, quand tu nommes cette proposition « créer les conditions de la bienveillance », je pense que tu touches assez juste, parce que le texte tente de saisir, c'est justement comment travailler sur les conditions d'une forme d'apparition plutôt que convoquer par le discours cette apparition. Quelque part, c'est comme si cette bienveillance était un objet qui ne pouvait être convoqué, mais sur, vis-à-vis de laquelle on ne pouvait que travailler sur les conditions. Et ces conditions, elles sont multiples. Et comme tu le dis, c'est aussi des conditions qui nécessitent de voir au-delà des évidences, de constater toutes les présences qui sont là, et y compris dans ce cas particulier, les présences fantômes.
Nous essayons, toi et moi, de faire acte de mangrove, et j'aime beaucoup cette idée. Donc je te partage une intuition, celle de la propagule, et que penses-tu de cette intuition qui n'a pas besoin de s'élever au rang de concept ou de structure pour fonder là-bas un peuplement, une mangrove ? La propagule n'est pas un rhizome. J'ai l'intuition que le rhizome reste lié à l'idée de connexion et de non-connexion ou de coupure insignifiante selon Deleuze et Guattari. Mais je dirais que la propagule est plus liée à l'idée d'une duction pour le coup et d'errance. Et c'est aussi contre une certaine idée de chemin qui mène nulle part, car je ne pense pas que ça existe, des chemins qui mènent nulle part, à part si on pense qu'il y a une part du monde qui est ce nulle part, ce néant. Mais il n'y a plus de lieu élu, on le sait. Et qu'importe où nous nous trouvons, l'idée est de préparer nos propagules n'importe où. Je sais que tu parles beaucoup de cette idée d'un lieu et d'autres régimes de visibilité de ce lieu.
Oui, je pense qu'il y a, dans ce que tu dis, il y a dans plusieurs choses, mais l'une d'entre elles, une question qui, je pense, nous rassemble au sens qu'elle nous occupe ensemble, ou on dirait que c'est une question avec laquelle on tremble, c'est la capacité à faire lieu, quel que soit le contexte. Et donc c'est comme une forme de question et de régime d'expérience. Pour le dire autrement, c'est est-ce qu'il est possible de faire lieu, un lieu désirable, un lieu projeté vers le futur à partir d'un contexte toxique, et qu'est-ce qu'il est et comment dépasser justement cette toxicité, qui est aussi une mesure aussi très personnelle hein, de la du lieu, parce que je pense que ce qui fait toxicité dans un espace, c'est aussi le rapport qu'on établit avec son histoire et le sentiment, la capacité qu'on a de dépasser en fait certains éléments, je dirais, formels, matériels et historiques du lieu. Donc de ce point de vue-là, je dirais que cette proposition-là de propagule, pour moi, d'une part, elle est assez puissante parce que c'est la proposition de pouvoir faire lieu pour ceux qui n'ont pas de lieu. Donc ça annule aussi les espaces de domination. Je pense que c'est aussi une expérience antillaise spécifique hein, de devoir faire lieu avec ce qui est le reste du lieu, avec ce qui a été abîmé en fait par un habité toxique. Et donc ne pas renoncer, malgré la toxicité d'un habité en fait qui a rendu toxique le lieu. Et aux Antilles, c'est à la fois un fait historique comme un fait contemporain, parce que là, par exemple, le scandale du chlordécone nous rappelle que parler de toxicité dans le cadre antillais n'est pas qu'une métaphore. Ce n'est pas juste un habité colonial comme une histoire, mais c'est un continuum historique qui produit une vraie toxicité. Donc la question que tu poses, c'est est-ce qu'on peut trouver des techniques de faire lieu, quels que soient les lieux ? Et ça, moi, je dirais que je ne peux pas répondre à la question de manière générale et que je peux y répondre de manière empirique. En tout cas, il est permis de le tenter et il ne faut pas s'en empêcher au sens presque par un a priori. Je crois qu'on a déjà parlé de cette question-là, c'est-à-dire de considérer que des choses sont praticables ou impraticables a priori. Pour moi, dans le terme de la pratique, il y a une forme empirique et le savoir, il vient aussi d'une tentative. Donc la propagule, pour moi, c'est toujours ce que tu proposes, c'est toujours la possibilité de tenter de faire lieu, quelles qu'en soient les conditions, mais aussi de peut-être, et là moi je prolongerai ta réflexion en disant, que d'accepter certaines mises en échec comme des parties de l'expérience, qu'elles ne soient pas, comment dirais-je, fatales en quelque sorte. J'ai l'impression que dans une espèce de projection utopique que tu proposes, on arriverait peut-être à sortir de ce sentiment de fatalité. C'est-à-dire que les choses sont comme ça ou comme ça, mais les possibilités à être non héroïques, c'est-à-dire pas complètes, non résolutives, mais quelque part, qu'elles soient des outillages pour tenter d'autres lieux, c'est important pour moi. À la fois pour avoir créé des lieux très concrètement, et à la fois pour avoir toujours créé dans la concrétude, je dirais, des lieux auxquels j'ai participé, des imaginaires qui permettaient de se projeter vers d'autres lieux à venir. Donc pour conclure, je dirais qu'il y a quelque chose, moi, dans un ressenti que j'ai aujourd'hui, après ces différentes expériences concrètes et collectives de lieux, il y a quelque chose qui m'intéresse dans la notion de lieu à venir. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours se dégager, en fait, des contraintes les plus anéantissantes et les plus négatives que nous imposent des sociétés, d'être en situation de projection vers un avenir. Et je pense que ça rejoint et ça rejoue des utopies, notamment marronnes, sans une vision romantique, mais juste en prenant très basiquement l'idée d'être capable, même dans une situation extrêmement tragique et difficile, d'opérer une projection. Parce que pour moi, le marronnage ne m'intéresse pas dans un espèce d'idéal héroïque, mais m'intéresse dans cette capacité de se dégager d'une fatalité, d'abord par l'imaginaire. Se dire c'est possible d'aller autre part, et maintenir cette possibilité-là comme un fait, et non pas comme une espèce de rêverie, mais c'est un fait. Ça tend le corps vers une forme d'émancipation, ça le tend vers autre part. Et je trouve que cette tension-là vers une autre possibilité, c'est une manière de se tenir dans le monde contemporain qui m'intéresse.
Je dois t'avouer, la mangrographie que nous avons essayé de collecter dans l'exposition Mangrovité est en réalité un tricotage d'affects et de relations. Et nous pensons que nous ne sortons jamais indemnes de nos rapports et relations, et c'est avec tous nos affects que nous avons collecté cette matière d'exposition. Ce n'était pas le discours qui faisait le rapport, mais tout ce que nous y mettons en termes d'engagement affectif, de force et de fragilité. J'ai compris que j'étais presque dans mon profond un amoureux à l'image de la figure de l'amoureux de Roland Barthes. Et c'est avec une somme de sentiments et d'émotions profonds que nous avons collecté cette mangrovité. Les fantômes sont toujours là, donc je pense à ton texte, mais nous voulions fabriquer des jours oranges où il serait possible de s'aimer même pendant le désastre annoncé. Et pour cela, je te rejoins, il y a ce désir de vouloir veiller au bien, bienveillance, sans majuscule, sans lequel ou sans laquelle la mangrove ne pourrait pas advenir, je pense.
C'est drôle parce que en t'écoutant une nouvelle fois, en fait, je viens de quelque part connecter, en fait, le terme de bienveillance avec le terme de veille. Et comme tu sais, la veillée dans mon travail et dans ma réflexion est un moment important. Je dirais que la bienveillance, quand on l'utilise de manière courante en français, c'est plutôt lié à une espèce de sentiment de bonté. Il y a une espèce de, je dirais, de qualité intrinsèque dont moi j'ai eu le désir, notamment dans ce texte fantôme de bienveillance, de me défaire de l'a priori, en fait, de bonté, pour revenir justement à ce que tu viens de faire comme connexion, qui est plutôt une forme de pratique, et on pourrait même dire une esthétique de l'attention. C'est-à-dire être attentif aux choses, comme si, par exemple, le lieu, plutôt qu'un ensemble d'éléments matériels composés, on va dire, tu vois, du béton, des câbles électriques, des fluides, que le lieu, c'était pas ça, en fait, mais c'était la somme des attentions à ce qu'il y ait lieu. Donc une forme, non pas d'institution, au sens dur du terme, mais une manière d'instituer collectivement quelque chose. Donc que le lieu devait toujours être doublé, en quelque sorte, d'un faire-lieu. Et donc la question de la bienveillance est aussi une question qui est liée à la veille, à la veillée, puisque j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même d'une forme de nuit, autant concrète que métaphorique, qu'on est amené à occuper pour fabriquer ces nouveaux lieux, un peu ce qui a été laissé et délaissé par la construction dominante, c'est cette espèce de nuit auquel il faut donner une forme de qualité et d'imaginaire. Donc la veillée, c'est aussi le moment où chacun va projeter dans cet espace de la nuit une espèce d'espace de possibilité. C'est vrai que ce que je voulais dire dans Fantôme de bienveillance, c'est justement que l'énonciation de la bienveillance comme un management, c'est comme un discours bienveillant de jour. Tandis que pour moi, ce sentiment de veiller les uns sur les autres et de veiller ensemble fait monter une espèce de bienveillance nocturne, mais qui n'est pas propriétaire et qui est énoncée par personne. C'est aussi ça que je voulais essayer de souligner, étant entendu que dans la perspective antillaise dans laquelle on est très conscient, peut-être plus qu'ailleurs, de la puissance de nommer comme une puissance de dominer, puisque on est une société dans laquelle les choses ont été renommées jusqu'au nom des gens. Et donc, quelque part, une espèce de manière de veiller sans nommer, c'est s'échapper d'une puissance pour aller vers une autre puissance où il n'y a peut-être pas de propriétaire.
Autre chose, j'aime cette idée que tu partages aussi, d'une voix qui ne serait déjà plus un organisme, mais une matière que tu dirais, je suppose, fantôme. Je comprends que pour toi, comme moi, il est question d'une nuit qui nous permettrait de sortir du discours et de toute idée de structure, même dans le langage. Il y a déjà avec elle un ton, un rythme, une nuance et parfois des hésitations. Même dans l'écrire, la voix met en présence non pas un organisme mais un tremblement, une somme contagieuse d'affects qui précisément font toujours trembler ma voix, comme si parler était déjà trop, souvent dégoûtant, comme s'il fallait toujours rectifier cela.
C'est intéressant parce que je me suis aussi intéressé à des éléments à des éléments fragmentés ou séparés, qui est peut-être, et de nouveau en t'écoutant, ça me vient à l'esprit ou ça me revient à l'esprit. Je pense que c'était aussi une manière de sortir, et il faut trouver toujours son chemin pour entrer et sortir de certaines questions. Pour moi, c'était pour sortir aussi de la notion d'identité, qui a pu faire débat et qui fait encore un peu débat dans des questions, dans des questions de la société française, et notamment pour les personnes qui sont racisées, d'évoquer une identité qui est pour moi une espèce de forme assez solide de la personne, c'est-à-dire très rassemblée, compacte, et qui aussi recherche de la certitude, et quelque part s'inscrit paradoxalement dans les vocabulaires de la modernité. Pour moi, la question de l'identité, c'est une question moderne, même si elle se veut critique de la modernité coloniale et occidentale. Il me semble qu'elle reconduit le problème, parce qu'elle recherche un espèce d'être assez solide et assez complet, là où moi, dans le travail, j'ai l'impression qu'on peut lutter d'une certaine mesure contre des choses qui nous enferment, mais imaginer ou instruire des sorties de l'identité qui soient aussi des espèces de nouvelles poétiques. Et l'une d'entre elles dont tu parles, mais on pourrait aussi l'étendre à d'autres choses, c'est effectivement aussi de sortir de l'identité au sens d'un locuteur ou d'un narrateur qui serait figé dans un corps et qui confondrait en fait la corporalité avec l'identité, y compris avec la voix. Mais penser la voix comme une entité, penser l'air dans lequel la voix se fait entendre comme une autre entité, penser le souffle, penser la bouche, sans l'annexer forcément à un corps pensant identitaire, sans être une propriété. Moi, j'aime bien en fait l'idée de contrecarrer en fait certaines politiques, y compris émancipatrices, qui diraient « ce corps m'appartient, mon corps m'appartient ». Et là, on voit toute une histoire émancipatrice du corps et du genre, vers l'idée de dire que mon corps n'est pas une propriété, donc il ne t'appartient pas, mais il ne m'appartient pas plus qu'à moi, en fait. Je le défais de ce vocabulaire d'objet appartenant, en acceptant qu'il est aussi fragmenté par des relations. C'est là que moi je prendrais quelque part la question de la relation, qui est une question qui se joue dans la mangrovité, mais qui pour moi, si elle ne trouve pas des points d'ancrage, elle devient une espèce d'objet flottant dont j'ai l'impression de ressentir la limite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'articuler toute la vie humaine autour de la relation peut être séduisant, surtout pour des gens qui ont des ancrages assez forts et qui savent qu'ils vont tirer de cette relation quelque chose. Donc moi, j'essaie de réfléchir à comment on peut s'ancrer de manière souple, et j'ai l'impression que ça, c'est possible en se défaisant de l'identité et en se pensant comme une entité fragmentée, quoi, qui peut être une voix, comme on est aujourd'hui, qui peut être un souffle, qui peut en tout cas trouver son espace et donc rendre les espaces parlants. Considérer que les espaces sont parlants. Et quand je parle du fantomatique, c'est vrai qu'il y a un paradoxe, parce que pour moi, ce n'est pas du tout une forme éthérée. Le fantomatique, c'est une forme matérielle, quoi. Il y a de la matière fantôme dans ton exposition. Quand je vois le béton qui s'effrite en sable, je vois une présence fantôme de la matière. Donc elle est quand même pas du tout éthérée, et tu vois, c'est quand même une matière qui quand même ne passe pas, au sens qu'elle n'est pas, on la sent passer.
C'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser, justement, tout à l'heure je te parlais de l'idée de propagule, et j'insistais sur le fait que la propagule n'était pas le rhizome. Précisément parce qu'il y avait cette idée qui rejoint ce que tu viens de dénoncer, de dire, d'un corps en plusieurs lieux. Précisément pour sortir de certaines politiques de l'identité, ou certaines conceptions, ou je dirais plutôt coupures entre des catégories, coupures entre des espèces et des genres. Et précisément, ça m'intéressait de penser la mangrove en tant qu'espace interespèce, précisément, et en tant qu'espace d'emmêlement. Et c'est intéressant de s'intéresser, par exemple, au mode de propagation, par exemple, de la mangrove ou de la mangrographie, à savoir un mode qui est un mode racinaire, qu'on pourrait dire rhizomique, mais il y a aussi un autre mode qui est un mode propagulaire, et qui est, encore une fois, beaucoup plus lié à la duction, l'idée d'être conduit par quelque chose, d'errer, et en même temps de savoir que là-bas, j'irai fonder une mangrove sans savoir comment ni quand, mais cette propagule qui erre, elle propage et elle repeuple, elle produit du peuplement. Et donc à la fois ça permettait de sortir de l'idée du proche au proche, qui avait encore une fois, je trouve, un peu dans le rhizome, mais d'à la fois pouvoir conjuguer le proche au proche et le loin au loin. Et je trouvais ça intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans cette matière fantôme, comme tu dis, bah on peut occuper, on peut habiter, occuper, hanter plusieurs espaces à la fois. Et tout simplement parce que le corps lui-même, en fait, est en plusieurs lieux. Il habite en plusieurs lieux. Et le fait d'habiter en plusieurs lieux, ce n'est pas du moins un empêchement, précisément, d'habiter. Et à ce niveau-là, c'est peut-être ça aussi l'identité diasporique, enfin, du moins la pensée diasporique. C'est-à-dire qu'être dans de plusieurs lieux, ça n'empêche pas, en fait, de se situer et de se recréer directement dans un lieu qui est lui-même propagulaire. Et donc ici, c'était de se recréer dans le lieu caraïbéen, qui est un lieu imaginaire, qui est un lieu réel, qui est un lieu où il se passe concrètement des choses, et ces choses-là remontent dans l'exposition, et il s'agit, en fait, de les propaguler, pour qu'ensuite elles touchent et qu'elles nous permettent aussi à nous-mêmes de faire lieu d'abord. Et donc voilà, il y avait tout ce jeu à la fois entre l'idée quand même d'être ancré au ras du sol dans un contexte, et en même temps, en fait, cette chose qui déjouait, en fait, l'identité un peu connective, enfin l'identité, c'est-à-dire la relation connective que je retrouvais dans le rhizome, d'un bout qui se connecte à notre autre bout ou pas d'ailleurs, et d'une autre manière d'imaginer la relation, non pas une relation liée à la connexion ou à la connectivité, qui d'ailleurs fait beaucoup penser à Internet, mais une relation propagulaire, à savoir qui est capable parfois de directement sauter des étapes et d'aller de loin en loin directement et de propager quand même, entre parenthèses, une totalité qui est la mangrove.
Oui, moi, je trouve que c'est très intéressant aussi ce que tu soulignes, et j'appelle ça, dans mes travaux récents, la conscience multiple, qui vient en fait de ce que Webb Du Bois a conceptualisé comme double conscience, c'est-à-dire chez les Africains-Américains, la conscience d'appartenir à un État-nation, les États-Unis, et à la fois d'appartenir à une histoire africaine qui est à la fois une histoire perdue, rêvée, reconstituée, qui n'est jamais en fait totalement coupée, mais qui est toujours au travail. Et donc, il y avait cette idée-là, en fait, d'être dans une double conscience qui était aussi un état psychique, qui devait aussi devenir, se transformer en espèce de, peut-être un état politique, en tout cas un état de la pensée. Et on s'est rendu compte que ce constat de Du Bois, avec la période contemporaine, s'est encore démultiplié. On est dans des consciences qui sont plus que doubles. Et c'est vrai que j'ai l'impression que face au trouble de la multiple conscience, on va dire des personnes diasporiques, il y a souvent un désir résolutif. On en a parlé, du problème de la résolution. C'est-à-dire que, du coup, il y a soit une politique d'identité qui va reconstruire une espèce de dur quelque part dans cet état de flottement multiple, tu vois, ou soit il y a une espèce de politique d'assimilation qui est une espèce d'abandon, en fait, de paysages mentaux qui sont plus travaillés, qui deviennent juste des espèces d'embarras ou des folklores ou des auto-folklorisations. Et se bat un peu deux modes de résolution qui sont quelque part comme des rivages qu'on rejoint, tu vois, c'est retour au rivage de l'origine ou alors projection vers les rivages, notamment dans la société française où la notion d'intégration est vraiment une espèce de rivage destructif. Et donc cet état de suspension qui pour moi n'est plus vécu comme un trauma, le trauma étant ce qui va donc se répéter sans cesse, n'est plus non plus vécu comme un oubli ou un effacement, mais au milieu de tout ça est vécu comme une possibilité d'être au monde, qui, comme tu le dis, permet d'être lié, à avoir des attachements dans plusieurs lieux, qui ne sont pas toujours en permanence reliés, qui prennent des intensités différentes dans ta vie à un moment donné. Si tu prends la peine de ne pas te construire une identité, mais un espèce de véhicule émotionnel qui va assumer que tu changes et que tu transformes au fil de ta vie, mais pas n'importe comment et pas à partir de n'importe quoi. Donc c'est à la fois des micro-ancrages et à la fois des micro-ouvertures. Et j'aime bien cette idée-là parce que je trouve qu'elle nous sort de ce qui est en train de se jouer, malheureusement, dans la société française, quelques décennies après les sociétés américaines notamment, qui est une espèce de polarisation de la question sur deux propositions qui, de façon, ne permettent pas d'avoir une vie bonne, quoi. C'est-à-dire l'intégration dans l'oubli et l'espèce de retour dans une espèce de réinvention identitaire. Dans les deux cas, certaines choses se comprennent dans des contextes, parfois provisoires, mais ne sont pas des horizons pour moi. Et je trouve que c'est important que les gens de la Caraïbe prononcent cette question-là pour eux-mêmes, peut-être en se défaisant de l'ambition d'avoir une espèce de projet pour l'humanité, qui est une espèce de vanité antillaise dont j'aimerais me détacher un peu. Déjà, savoir ce que tu vas faire toi, et puis tu pourras... Je ne sais pas si c'est un projet pour l'humanité entière, mais c'est un projet qui est très prégnant lorsque je crois qu'on vient des mondes caribéens.
Oui, on avait beaucoup parlé de l'idée que... Alors, il faudrait faire la généalogie un peu de ça, mais... que souvent, en fait, quand la ou les Caraïbes, en tout cas, du moins, les littératures et philosophies caraïbiennes, ou les mondes caribéens, bon, même si c'est assez délicat, c'est difficile de savoir ce que ça recoupe, mais disons, en tout cas, les littératures et philosophies servent souvent de métaphore ou de métonymie au monde, à savoir qu'il y a eu cette idée qui a été, on est d'accord sur ça, là, le dernier glissant, l'idée de reprendre des concepts et de les... De prendre en fin de compte même le signifiant créole comme un signifiant à ce point généralisé qu'il devient une métaphore du monde, mais qui du coup en fin de compte ne recoupe plus en fait une situation particulière et contemporaine qui est la situation par exemple des Antilles. Donc oui, je comprends un peu ce danger que tu dis, et d'où la nécessité notamment par exemple dans ces littératures-là de rappeler le contexte et de rappeler même d'où ces mots, ces signifiants, ces concepts en fait sont, sont partis, quoi.
Mais je pense que d'autant plus, il y a quelque chose de... Moi, j'aime pas trop nommer les choses en termes de génération, mais en fait, on peut parler de période ou de moment historique. Il y a une forme de maturation de l'idée, et qu'on doit à ceux qui l'ont travaillé avant nous, parce que moi, je trouve que c'est très important de s'ancrer dans une histoire sans qu'elle nous oblige, en fait, mais qu'on travaille en conscience de ce qui a été pensé et vécu avant. Et il me semble que qu'en train de se construire de manière, je crois, potentiellement intéressante, une espèce de, et là ça rejoint tes propagules, une espèce de réflexion caribéenne du retour, qui n'est plus dans les grands idéaux, peut-être du XXe siècle, dans le spectre du retour en Afrique, hein, qui n'est pas non plus un retour... Qui va penser que les choses peuvent être refaites dans l'autre sens, parce qu'il y a une espèce d'asymétrie et il y a un impossible retour, mais bien des formes de détour, mais quand même qui vont se jouer dans la Caraïbe, et qui est pour moi un enjeu très intéressant pour les diasporas, en fait, d'essayer d'imaginer non pas ces vies diasporiques à distance, mais d'essayer de reconduire quelque part en retour, et là je parlerai pour citer Césaire, mais en retour vers l'Arcaraïbe, l'effet de la diaspora. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a diaspora, il y a un moment diasporique qui s'explique dans l'histoire et d'une société, dans son économie, et il y a un retour, un effet retour de la diaspora qui ne serait pas qu'une économie à distance où des gens vont financer à distance les îles, mais les gens reviennent. Et reviennent comme des Antillais diasporiques, donc pas du tout dans une espèce de comment dire, de performance de l'Antillais local. C'est une autre catégorie qui revient en fait essayer d'interroger ce qui est possible de faire à partir de ce territoire-là et de le négocier, d'imaginer. Donc quelque part des imaginaires qui, je pense, la génération qui nous a précédés et qui a vraiment les deux générations qui nous ont précédés et qui ont vraiment quitté l'île. Ne se projetait pas dans les possibilités de retour, je dirais, actives intellectuellement, parce que là, on parle d'inventer un territoire. Il ne s'agit pas simplement de venir y habiter de nouveau, ou y passer sa retraite, ou que sais-je, mais en tout cas de se dire, il y a un nouveau pays à faire. Et moi, j'aime bien ça, parce que c'est la même question que l'identité. Si on part du principe que ce qui sera à faire n'est pas une chose qui existe, en fait. Donc la notion même de réparation... Et là, je me suis beaucoup intéressé à cette question-là. Pour moi, nécessite une opération vers un lieu qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que c'est ça la problématique, parce que on est bloqué dans l'acte de réparation parce qu'on ne sait pas en fait vers quoi on emmène la chose réparée. On sait qu'on peut pas la dissimuler sa blessure, et ça, dans le travail de quelqu'un comme Kader Attia, ça a été très bien travaillé, montrer qu'en fait la réparation dans une perspective non européenne, c'est aussi faire apparaître l'histoire de la blessure. Cependant, ça ne résout pas complètement, en fait, où et comment on répare. Et moi, je trouve que ce où et comment on répare, c'est un lieu à inventer. Ce n'est pas que la réparation, c'est les conditions de la réparation et donc les conditions d'être ensemble à réparer. Donc voilà, je trouve que dans cette notion, en tout cas, que tu as introduit d'une forme de mangrovité avec ces dimensions discontinues, moi, je vois peut-être quelques outils pour imaginer un lieu qui n'est pas encore là dans la Caraïbe avec sa propre histoire et son propre contexte.
Non, ça partait d'une intuition très, très personnelle, d'une recherche du temps perdu, à la recherche du temps perdu précisément de ces sociétés-là tout au long du XXe siècle. Et qu'au final, il y avait toute cette question un peu presque, on pourrait dire même des futurités et des science-fiction créoles ou caribéennes qui commençaient, moi, à m'intéresser précisément, à savoir comment il est possible dans ce lieu-là ou ces lieux-là de penser à des futurités et à des science-fiction qui seraient, pour le coup, singulières, en tout cas différentes. Donc, il y avait des mots comme ça qui venaient dans ma tête. Ça, c'était après avoir vu le film d'animation Akira de Katsuhiro Otomo. Et en fait, dans Akira, Tokyo s'appelle Néo-Tokyo. Et je me dis, bon, ce serait amusant de penser à la Néo-Caraïbe, quand bien même peut-être cette Caraïbe ne serait pas encore advenue, mais d'aller encore plus loin et de penser carrément la néo-Caraïbe, et en fait de pousser précisément jusqu'à des futurités, des futurs qui peut-être adviendront ou pas, quoi.
Mais j'ai l'impression, peut-être je vais dire un dernier mot à propos de ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, en fait, dans la culture de la Caraïbe, avec son histoire, son histoire moderne et son histoire traversée par l'épisode colonial en particulier, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est particulier et qui peut-être n'a pas été tout à fait utilisé comme un levier vers cette science-fiction, qui est une espèce d'attente de la possibilité à vivre. Parce que dans le contexte colonial, à un moment donné, il y a comme une espèce de report par la vie en plantation, par aussi des contraintes sociales très fortes. Il y a une espèce de report de la possibilité à vivre. Une espèce d'empêchement, mais qui produit une espèce de culture de la préparation. On le voit au Brésil avec, moi je cite souvent la capoeira comme exemple, en fait, d'espèce de combat qui est reporté et préparé, et donc quelque part, on se prépare pour quelque chose, et après la préparation devient une forme. Et moi j'ai l'impression que, en tout cas en tant qu'acteur culturel, sans en présumer la forme, parce que voilà, on parle de la danse, peut-être que c'est avec le corps qu'il faut le faire, mais que ce qui va m'intéresser aujourd'hui dans la recherche entre l'art et la culture, dans cette perspective caribéenne, c'est de revenir en fait dans une esthétique et dans une pratique de la préparation. C'est-à-dire que de pas dire que le futur il vient d'un coup, mais il vient, je sais pas comment dire, on crée une forme d'appétit et d'habitude de ce futur, aussi pour d'avoir un espèce de training, une pratique de défaire son désir et son attention de ce qui reste de la puissance de capture coloniale. C'est-à-dire, souvent, je me dis, à un moment donné, quand tu as fait ce travail d'analyse pour comprendre comment t'émanciper d'un système, il faut après s'en désintéresser au sens presque premier du terme, quoi, en enlevant ses affects, dont tu as parlé d'affects tout à l'heure dans votre projet, pour conserver le maximum d'affects vers une projection plus désirable. Et j'aurais envie de dire, pour moi, c'est une fonction, et j'en ai parlé récemment avec un travail que je fais avec Françoise Vergès, c'est une fonction très spécifique, et je ne suis pas habitué à donner des fonctions à l'art, mais c'est une fonction très spécifique que j'ai envie de donner à ma propre pratique et à mes engagements avec d'autres professionnels dans l'art et la culture aujourd'hui, c'est de dire, moi, ça m'intéresse maintenant si c'est la préparation vers un espèce de monde à venir. C'est comme si on faisait des choix dans sa pratique, moi, c'est celui-ci que j'ai l'impression que je suis en train de faire.
C'était aussi il me semble qu'il y avait une phrase dans le communiqué de l'exposition qui parlait justement de cette colonisation qui est probablement une des plus perverses, à savoir ce fait de coloniser presque jusqu'à nos futurs, en fait, d'en venir à coloniser nos futurs ou presque nos capacités à imaginer un futur ou bien même nos capacités à désirer, je pense, d'autres futurs ou futurités qui ne sont pas ceux ou celles que l'on nous impose. Donc il y avait cette idée de sortir totalement des rhétoriques collapsologiques, ou du moins des futurs tragiques qui nous pendent au nez, enfin, quand on se situe dans l'espace européen ou occidental, et précisément de se déplacer, de se dire, bon, bah, dans cet autre lieu, précisément comment on imagine, ou comment le futur, en fait, en vient à être imaginé. Et je suppose, et j'imagine qu'il en vient à être imaginé de manière différente, où ce futur, peut-être qu'il est à venir pour nous, si on part encore de l'idée que nous sommes des colonies. Donc ce futur-là, en fait, cette émancipation-là, elle est à conjuguer au futur. Donc ce futur-là ne semble pas collapsologique, étant donné que le collapse est déjà advenu, mais bien au contraire, peut-être que ce futur, ou peut-être que ces futurs qu'on peut imaginer, sont des futurs justement d'émancipation et peuvent aussi être des célébrations, et pas que des vues pessimistes, mais aussi des vues, ouais, en tout cas pas pessimistes.
Oui, j'ai l'impression que c'est sur ce point-là, d'ailleurs, que dans son ouvrage Une écologie décoloniale, Malcolm Ferdinand tente de pointer, quand il veut sortir au moins du terme d'anthropocène, qui reconstitue une espèce d'unité humaine uniquement négative, c'est-à-dire une unité de la responsabilité de la fin du monde, on va dire, alors que lui, justement, il pointe en fait le fait que ce n'est pas tant l'humanité le problème qu'une manière d'habiter le monde. Et c'est vrai que donc, dans des manières d'habiter le monde, manières et lieux du monde, il n'y a pas de raison qu'on ressente tous la même chose, on soit tous au même point de l'histoire. Comme tu dis, les sociétés, notamment du continent américain précolonial, ont vécu déjà l'arrivée des premiers colons il y a 500 ans comme la fin de leur monde. Tous les mythes des peuples indigènes d'Amazonie sont tous un peu liés vers cette espèce de première fin du monde. Et cette expérience donc de vivre après une fin du monde, ce qui est aussi pour moi un truc très intéressant dans la cosmogonie et dans l'imaginaire caribéen, c'est peut-être aussi de pouvoir considérer des expériences de la mort déjà vécues, puisque je pense que l'expérience radicale de l'esclavage, du passage du milieu comme du régime plantationnaire est déjà une expérience de la mort, et que donc les Caribéens ont aussi, en fait, déjà des vies après la mort. C'est-à-dire que pour moi, la survivance caraïbe est une, certains anthropologues, est déjà une surprise incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tout est quand même fait pour que tout disparaisse et que tu t'en sortes pas, même si les analyses, en fait, divergent sur la question. Mais en tout cas, tout est fait pour que tu sois épuisé comme une matière fongible. Et cependant, en fait, non seulement tu survis, mais tu construis une culture. Et je crois que cette espèce d'expérience d'être déjà, en fait, des espèces de morts vivants est une manière de se projeter forcément dans un futur différent. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et c'est très important aussi de ne pas considérer que c'est un futur de l'humanité dans son entièreté. Non pas pour dire mettre les uns contre les autres, mais pour dire qu'en fait, des expériences singulières produisent des capacités et des futurités particulières qu'il va falloir après négocier dans des espaces pour créer du commun. Mais de rendre directement et immédiatement toute expérience spécifique comme propriété de l'ensemble de l'humanité, c'est pour moi continuer paradoxalement l'histoire coloniale. C'est-à-dire que tout ce qui peut avoir de la valeur doit revenir à un soi-disant commun qui est en fait un commun dirigé par certains.
Alors pour finir avec ça, ou pas pour finir, pour commencer, ça me fait penser au travail de Kelly Sinepa-Mari dans l'exposition qui... On en a longuement discuté, en fait, c'est un travail qui réimagine, réinvente d'autres, de manière très modeste, en fait, cette idée de construire, de collecter très modestement une espèce d'enfance du monde dans la mangrove, dans des refuges, qui nous permettent de réexpérimenter cette idée, en fait, compte d'un lieu pour soi, d'un lieu à soi et d'un lieu pour soi, comme lorsque nous étions enfants. Et ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis, dans cette idée de très modestement, en fin de compte, collecter, préparer précisément cette mangrove ou ce peuple futur. Autre chose, je dois t'avouer, j'ai souvent peur des jeux de position souvent faciles, des jeux du contre et du pour, d'une négativité qui devient presque une ritournelle, d'une coupure qui reste encore dans la scène coloniale. Il est important que la langue garde sous ses pieds une balle ou une lame, mais lorsqu'elle joue sans ruse à garder sous ses pieds une balle et une lame, lorsqu'elle s'expose et se positionne comme le négatif ou la marge, je me méfie très souvent. La coupure en tant que contre-violence, par exemple, je pense là à Frantz Fanon, est intéressante, mais elle ne saurait suffire, non ? Voilà pourquoi je pense à ces idées de mangrographie sans pour autant prêcher la relation comme monsieur. La coupure est un mode de la relation, elle n'est pas son contraire.
Je pense juste peut-être pour terminer là-dessus que... Bon, les termes ne sont pas toujours facilement habitables, on va dire. Ce que j'aurais envie de dire, il y a des histoires de transition, mais le terme de transition a été aussi beaucoup usé ces derniers temps. Mais je dirais simplement en fait que pour moi, le lieu est aussi n'est pas qu'un espace, c'est un temps. J'ai pu expérimenter dans ma propre vie que s'émanciper, c'est obtenir parfois en contrebande, en quelque sorte, c'est pour ça que je pense à la nuit, obtenir un temps dans lequel on arrive à respirer, et goûter à ce temps dans lequel on a respiré, et progressivement tisser à partir de ce premier, cette première prise, cette première sensation, quelque chose qui s'étend. Et pour moi, en fait, ça ne repose pas justement sur des oppositions et des coupures, parce que j'ai envie de dire qu'on n'a pas les moyens de ça. Parce qu'en fait, il faut aussi se regarder en face en termes de rapport de force. Mais je ne dis pas ça pour être découragé, mais au contraire, pour trouver le juste courage. Je pense qu'il faut se regarder en face, on n'a pas les moyens d'un rapport de force face à des systèmes qui sont extrêmement à la fois puissants et avec des capacités de reconfiguration extrêmement rapides. Donc, dans le jeu d'être contre, c'est quelque chose qui peut sans cesse se mettre en mouvement. Et donc, je crois que le moyen qu'on a à faire d'abord, c'est essayer de s'occuper de soi dans un sens qui n'est pas séparé, en fait, mais qui est une espèce d'espace à soi. J'aime bien ce que tu as dit par rapport à ces fragiles premiers petits abris. Je pense que ce qu'a déchiré, en quelque sorte, le moment colonial, c'est la capacité de certaines personnes à penser des en soi, quoi, pour soi. Et donc, il faut le retrouver modestement, presque dans un geste qui sort de s'opposer à quelque chose et qui est pour soi vraiment. Parce que le pour soi, je crois qu'on l'a perdu, en fait. Paradoxalement, et la puissance de domination qui nous tient, c'est qu'on a perdu notre capacité à faire des choses pour nous-mêmes. Et on croit qu'on le fait, mais on ne le fait pas, parce qu'on ne se donne pas l'espace, le temps d'aller chercher vraiment en nous-mêmes ce qu'on doit faire. Donc la question de l'émancipation, elle est là. Et quand tu fais un premier pas d'émancipation, aussi modeste soit-il, tu le sens. Tu le sens et tu sens aussi que d'autres le sentent. Et que donc, dans cet espace dynamique, il va falloir être assez habile parce que d'autres te voient t'émanciper et n'ont pas forcément envie de te laisser faire. Même des gens qui peuvent justement se parer de bienveillance. L'émancipation, c'est un truc qui effraie un peu. Un système en place. On a envie que tu continues à jouer le jeu et là, on a l'impression que tu es en train de sortir. Moi, j'aurais tendance à nier de plus en plus, et avec le temps, la négativité ou la négation pour s'émanciper, pour l'inverser vers une forme d'affirmation. Donc, de ne pas dire ce que tu ne fais pas ou ce que tu ne fais plus ou ce que tu ne veux plus faire, mais ce que tu fais et ce que tu veux faire aujourd'hui. Et chacun en tirera les conséquences, en fait. Mais les conséquences, tu n'as pas à les tirer pour les autres, quoi. Quand tu ne veux plus participer à certaines choses, il te suffit de dire à quoi tu veux participer. Et donc, ce à quoi tu ne participes pas, par conséquent, n'est plus un sujet pour toi, en fait. Tu dis, ben moi, je ne sais pas, je n'ai pas à me positionner par rapport à un espace dans lequel je... Donc, dépenser de l'énergie pour dire à quoi on ne veut plus jouer, je trouve que c'est ça qu'il faut qu'on arrête de faire. Parce que si on a un geste assez juste, tout le monde peut comprendre ce qu'il a à comprendre, mais toi, tu ne perdras pas d'énergie à un sujet qui ne t'intéresse pas, en fait, qui n'est pas ton sujet et qui n'est pas un truc pour toi-même. Et c'est vrai que voilà, ce modeste s'occuper de soi, qui pour moi, bon, évidemment, ça repose sur une espèce de discours du soin pour soi contre le monde qui s'est beaucoup répandu dans le moment néolibéral. Là, moi, je parle d'un soi qui peut être plus large que, encore une fois, une identité individuelle. C'est un soi qu'on peut partager avec d'autres de loin en loin. Mais voilà, moi, je poserais plutôt l'attitude de la ruse et des petits écarts que l'héroïsme de la coupure. Parce qu'encore une fois, c'est une réflexion pragmatique. Je pense qu'on n'a pas les moyens, en fait, de cette espèce de frontalité, surtout aux Antilles. Donc, à un moment donné, il faut... Et donc, il y a une part de secret. Et ça, je crois que ça impacte sur notre manière de fabriquer notre langue à venir, quoi. Cette nécessaire soin pour nous, part de secret, mais qui est modestie, en quelque sorte, quoi. De manière modeste, il faut construire une ambition de se protéger et d'avancer vers d'autres mondes.
Pour celles, ceux qui nous écoutent, gardons secret.